Pendant les questions, je mangerai.
Je fais une partie du cours.
Tout va bien, tout va bien.
On va poser des questions.
Donc, Erev Tov, les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver. Alors, il y a marqué pour la 9e année consécutive, je ne m'en rappelais pas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est ça, on s'est dit, il faut qu'on... 9, c'est Shashua.
Mais là, on monte
à
un niveau.
On monte beaucoup de niveaux.
Je me rappelle de. Il y a la soupe en plus.
Je me rappelle de ce. Bah, c'est ça, non, mais je t'ai dit. Ma limba kodesh velo moridim. Donc là, il y a soupe. La semaine prochaine, on attend autre chose.
C'est la commande.
Non, mais. Voilà, je me rappelle de ce soir où le Rav Cherki m'a téléphoné en me disant voilà, Givat Shmuel, ils m'ont demandé de leur faire un cours une fois par semaine. Je leur ai dit je peux pas. Mais je leur ai dit que toi, tu pourrais, donc tu peux. Et voilà. Et on est là 9 ans plus tard. Il s'est pas trompé. Je pouvais pas, mais il m'a pas vraiment laissé le choix, quoi. Donc voilà, et je suis très heureux de vous retrouver, et on a décidé de, sur les conseils bien avisés de personnes dont on taira le nom, de commencer une nouvelle étude, un nouveau cycle, après avoir étudié ensemble le livre de Bereshit, d'abord la paracha, pendant 2 ans la paracha, si je me trompe pas, après on a étudié le livre de Bereshit sur 2 ans aussi, ensuite on a étudié les grands personnages, et puis bon, j'en passe des meilleurs.
Et
Sanhedrin. Et Masaret Sanhedrin, Perek Relek. Et donc là, on va rentrer dans un gros morceau.
Dans le vif du sujet.
Un très très gros morceau. Et avant de rentrer dans le livre lui-même, il faut qu'on parle un petit peu du personnage. Alors ça ne va pas être un cours du tout sur le personnage, puisque ça, je le réserve. Ça fait des années que je réserve mon cours sur le Rav Kook. Ça viendra.
La soirée
est là. Ouais. Des fois, tu as du mal à rentrer dans la Kodesh Pnima. Mais le Rav Avraham Yitzhak à Kohen Kook, puisqu'on ne va pas parler de toute sa biographie là maintenant, on va simplement dire qu'il a une Torah qui a une particularité qui doit être enseignée aujourd'hui, c'est que c'est une Torah globale. Et c'est pour ça que je ne dis pas simplement Torah Taklal. Torah Taklal, les gens, ils entendent Klal Israël. C'est Nachon. C'est vrai que c'est une Torah qui va parler à l'entité collective du peuple juif. Mais la grande particularité du Rav Kook, c'est que ce n'est pas que ça. C'est une Torah qui parle à l'individu. C'est une Torah qui parle à l'entité collective du peuple juif. C'est une Torah qui parle de son époque, de la transversabilité de Dieu en tant que se dévoilant dans l'histoire et dans le temps, et également dans l'endroit. C'est une Torah qui va parler de notre relation au monde, notre relation à la nature, notre relation avec l'existence. Donc c'est une Torah globale, une Torah du tout. Et c'est vraiment ce qui va le définir et ce qui va donc lui faire rentrer dans des combats qui, à son époque, parlaient à 2 personnes et demie, mais qui sont les combats qu'il voyait arriver. Les grands débats, les grands sujets de la résurrection nationale du peuple juif. Le Rav Kook accompagne la période la plus extraordinaire de notre histoire, puisqu'ils accompagnent la sortie de l'exil. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais c'était aussi un défi très important. Parce que lorsque les générations se suivent et se ressemblent, eh bien finalement, on n'a pas besoin d'un dirigeant qui va être au-delà des événements. Puisque finalement, les questions qui vont arriver maintenant sont exactement les mêmes qui sont arrivées aux rabbins de la génération d'après. Qu'est-ce qui a changé entre une question posée à Prague il y a 300 ans et une question posée à Prague il y a 350 ans? C'est plus ou moins les mêmes. Mais lorsque tu vis une époque de transition aussi importante, ça pouvait être l'époque du départ en exil. Les rabbins, lorsqu'on est parti en exil, comme Rabban Yochanan ben Zakkai, ont dû faire face à des questions qui n'ont jamais été posées. Eh bien, les questions, les sujets qui doivent être traités lorsqu'on sort de l'exil sont évidemment des sujets aussi qui nous dépassent complètement. Le risque serait de ne s'occuper donc que de ça et d'oublier aussi de s'occuper de la halakha de tous les jours.
Des affaires courantes.
Des affaires courantes, exactement. Et par ça, le Rav Kook, il ne déroge pas du tout à ce problème-là. Il n'y a aucun problème dans le sens où il va être aussi un des plus grands possèques de sa génération, voire même de toutes les générations. On les connaît moins, mais il a écrit énormément de livres de halakha. Donc, c'est quelqu'un qui a été complètement dans son quotidien, dans son temps, au sens le plus petit du terme, mais également au-delà de son temps. il traversait les générations, et c'est vrai que son enseignement est peut-être des fois plus audible aujourd'hui qu'il ne l'a été lorsqu'il a été prononcé. Le Rav Tzvi Yehuda Kouk, son fils, avait l'habitude de dire que, mais en voyant dans la yeshiva de Merkaz Arav, quand lui il en était le Rosh Yeshiva, et qu'il voyait les jeunes étudier le livre Orot, il a dit, mais qui l'eût cru que des jeunes, Tseirim le Yamim, donc des jeunes, arriveraient à comprendre ce que mon père écrivait. À son époque, on était deux à comprendre. Deux et demi. C'est-à-dire donc,
mais comment il l'a transmis? C'est-à-dire quoi, c'était des cours, il a parlé à quelqu'un?
Alors, on va parler justement de comment le livre a été mis en place, et pas seulement ce livre-là, mais de manière générale. Simplement, avant, je voulais précéder en disant que le Rav Kook avait trois élèves. Et en fait, ces trois élèves ne peuvent pas être pris séparément si on veut comprendre qui est le Rav Kook. On a besoin des trois élèves du Rav Kook pour comprendre qui il était, puisque les trois ont pris chacun un pan différent du Rav. Et si tu veux comprendre qui était le Rav, il faut les trois. Ces trois élèves, c'était son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, Arav David HaKohen, le Rav Anazir, et également le Rav Harlap, Yaakov Moshe Harlap. Et le Rav Tzvi Yehuda a pris le côté Eretz Israël, le côté national de son père. Ça veut pas dire qu'il n'a pas pris les autres aussi, mais il était plus présent là-dedans. Le Rav Anazir était plus du côté de sa dimension humaine. Et le Rav Harlap était le côté Torah. Ouais, voilà, Torah dans le sens plus classique du terme. Et en fait, il était évidemment les trois. C'est le Rav Harlap qui va lui donner le tampon de kachérisation. C'est-à-dire que lorsque le Rav Kook arrive en Israël, il a déjà 39 ans, mais donc c'est déjà quelqu'un qui est connu, qui est un Talmid Chacham, mais le Rav Harlap n'est pas tellement plus jeune que lui. Et donc, puisque le Rav Harlap est déjà une sommité à Jérusalem, eh bien, quand le Rav Yaakov Moshe Harlap le reconnaît comme étant son maître, alors ça donne le tampon de kachérisation du Rav Kook pour tout le monde. Genre, ah bah, si le Rav Harlap il dit ça, donc c'est bon. Donc quelque part, c'est grâce à lui que, c'est grâce à l'élève que le maître va être reconnu.
Quand tu dis sommité, c'est par rapport à un courant
ou... Non, justement, le Rav Harlap, c'était, tu sais, il habitait à Sharei Chesed, ouais. C'était, il n'y avait pas de courant, si tu veux, à ce moment-là. Il y avait le Yishuv HaYashan. C'était... Au tout début du XXe siècle. C'est Mamash, Yishuv HaYashan, c'est les gens qui sont... voilà, il n'y a pas de débat, t'es Torah ou t'es pas Torah. Il y a un autre rabbin qui a énormément œuvré pour que le Rav Kook arrive en Israël, c'est Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui lui aussi était déjà connu partout en Israël, qui est beaucoup plus vieux que le Rav Kook, et c'est lui qui l'a fait venir en Israël pour devenir le grand rabbin d'Eretz Israël. Donc voilà, il va arriver ici et il va devenir le, bah, d'abord le rabbin de Yafo et des Moshavot. Donc un titre un petit peu tourné en dérision par les rabbins de Jérusalem. Mais finalement, il deviendra le grand rabbin de Eretz Israël, mis en place par le mandat britannique. Et c'est lui qui va créer le grand rabbinat d'Israël. Et pour lui, le grand rabbinat d'Israël devait être le point de départ de ce qui allait devenir Bezrat Hashem, et ce qui va devenir Bezrat Hashem, le Sanhedrin. C'est ça l'idée. L'idée, c'était de reconstruire le Sanhedrin, justement pour avoir une vision de la Torah qui touche à tout. D'accord ? Dans cette ambiance-là de la résurrection du peuple juif, eh bien, il veut écrire aussi une Torah qui va justement parler un langage qui est le langage nécessaire à son époque. Le Rav Kook, j'ai dit que c'était un des plus grands possèques de sa génération, mais c'est également Gdolé Amekoubalim. Et il va justement utiliser cette Torah de la Kabbalah, traduite dans un langage que les gens peuvent comprendre, pour expliquer en quoi la résurrection laïque, chilonite, du peuple juif sur sa terre, puisque ceux qui sont à son époque aux commandes de ce qui se passe, ce sont les gens qui ont abandonné la Torah, eh bien il va expliquer, avec l'enseignement de la Kabbalah, comment est-ce que ces gens-là, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, sont la réalisation de la promesse des prophètes, sont ce qu'on attend depuis 2000 ans, sont en train de réaliser l'histoire de la Géoula. Et donc, il va utiliser le langage de la Kabbalah, mais traduit en signon national. Les rabbins de Budapest vont envoyer une lettre au Rav Tzvi Yehuda, qui était en Europe pendant un moment, et ils vont lui demander, mais pourquoi ton père, quand il parle aux kibbutznikim, il leur parle de signon national, velo besignon toratenu akdosha. Et c'est pourquoi il leur parle avec un langage national et pas un langage de Torah. Le Rav Tzvi Yehuda va répondre, car il s'agit de dîner Torecha. C'est les lois de la Torecha dans le judaïsme. Torecha, ça veut dire faire une remontrance à quelqu'un. On a une mitzvah de Ochiach, Torecha et Amitecha. Seulement parmi les lois, comment est-ce qu'on peut faire cette mitzvah? Eh bien, il faut parler un langage que la personne en face comprend. Sinon, t'as pas fait la mitzvah. Il dit, les gens en face de lui, ils comprennent pas. La Gemara, elle dit... Mais ils comprennent, un peuple, ça ils comprennent. Mais c'est là. Dans tous les livres du Rav Kook, il y a de tout. Et je ne parle pas seulement des livres de Halakha. Dans ses livres de grande réflexion, il parle de tous les sujets. Il va y avoir des livres qui s'appellent Orotat Torah, où il parle de ce que c'est la valeur de la Torah. Orotat Teshuvah, ce qui est la valeur de la Teshuvah. Orotat Kodesh, quelle est la dimension du Kodesh. Mais la masterpiece, son livre principal, qui n'est pas le premier d'ailleurs, mais son livre principal où sa Mishnah, sa Torah est le plus développé, c'est le livre tout simplement Orot. Ok ? C'est-à-dire, donc, je vous propose, après cette petite introduction, qui ne servait que de spoiler au futur cours sur le Rav Kook, de commencer. C'est-à-dire, on y va ? Et alors ? Alors, je vous invite à ouvrir le livre et je vous invite surtout à vous munir d'un livre.
Mais comme ça, j'ai bien.
Voilà. Oui, mais vous avez été prévenu au moins 3 jours à l'avance. Donc, vous aviez le temps. Non, la vérité, c'est que... Bon, de toute façon, je ne vais pas dire les choses qui sont évidentes, mais quand on étudie, quel que soit le texte qu'on étudie, on comprend 5 fois mieux quand on a le texte devant les yeux que quand on ne l'a pas. Ça, c'est pas shoot. C'est même pas un débat. Il y a certains textes qui sont plus faciles à écouter et ça nous dérange moins, même si encore une fois, quand tu as le texte devant les yeux, tu comprends mieux. Mais le Rav Kook, c'est vraiment, dans la mesure où le style littéraire est compliqué, si on n'a pas le texte devant les yeux, c'est impossible de retenir quoi que ce soit. On va retenir les grandes idées peut-être, mais on ne va pas étudier. Donc si on est mitiamer, c'est-à-dire si on ose rentrer dans l'étude du Rav Kook, et comme tu as dit, on monte de level, très bien, mais il faut se donner les moyens du level, il faut avoir le texte. Alors, je crois qu'il y a une traduction en anglais, je ne crois pas qu'il y ait en français, mais par contre, il existe sur tous les téléphones. Voilà. Alors, je vous invite quand même à acheter le livre, je ne touche pas de royalties du Rav Kook, mais ne serait-ce que pouvoir écrire des choses et machin.
Alors, d'ailleurs, pour ceux qui veulent...
Quand ce n'est pas moi qui parle, je mange.
Voilà. Ceux qui ont le livre, vous pouvez venir avec la semaine prochaine. Ceux qui ne l'ont pas, moi, je veux bien en commander quelques-uns enfin, et aller les chercher chez Gittler. Alors, dites-moi, vous pouvez me contacter par WhatsApp et j'en ferai venir pour la semaine prochaine.
Mais, c'est-à-dire que si on achète, ça veut dire qu'on l'étudie, hein, pour de vrai.
Alors, j'en profite pour dire que
je continue. Je continue à manger alors. Hein.
Que aujourd'hui d'ailleurs a été nominé le nouveau chef d'état-major des armées, le colonel Herzi Halevi.
Général
Herzi Halevi, pardon. Le général Herzi Halevi.
De l'armée. Il n'y a qu'une armée en Israël. Il y a différents autres pays.
Voilà. Alors,
attends, le général des armées, ça ne veut pas dire qu'en France, il y a plusieurs armées.
Oui, non,
il y a
c'est l'armée de l'air, l'armée de terre. Je
pense que c'est ça que ça veut dire.
Tu fais l'armée, oui. Mais c'est
voilà, des différents corps
armés. C'est que tout fait partie d'un.
Voilà. Et alors, pourquoi je disais ça? Bon, d'abord, parce que c'est une super nouvelle. Et bon, en plus, moi, j'ai la chance de le connaître personnellement, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui était d'ailleurs le méfaquette de Bennett et de Moreno.
Si vous avez un enfant qui n'arrive pas à rentrer dans l'unité où il a envie de rentrer.
et bref, et pourquoi je parle de lui, non seulement parce qu'il a été nominé, mais parce que sa maman est la nièce du Rav Kook.
Wow.
Donc, sa relation avec notre cours
est énorme.
Voilà.
C'est énorme.
La première fois qu'on a un chef d'état-major qui est religieux sioniste.
Mais religieux.
Et son père,
lors des manifestations à Tel Aviv en grâce.
Son père les emmenait, les emmenait le matin, monter compléter les mini-animes. Yehuda et Shomron à 6h du mat.
Écoute, moi, si on en est dans les trucs, si vous connaissez des gens qui ont un poids au niveau au niveau comment dire de l'immobilier et de ce genre de choses. Il faut faire quelque chose avec la maison du Rafouk à Tel Aviv, à Neve Tzedek. C'est pas possible. Hein, ça fait des années que c'est en lambeaux. Faites quelque chose. Hein. Parlez à qui de droit, je ne sais pas. Mais il faut faire un truc avec cette maison, en faire quelque chose d'énorme.
Mais elle a été classée quand même.
Je crois qu'elle est classée, que donc c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas y toucher de la façade, machin. Mais en vrai, il y a plein de choses à faire, quoi. Ouais. C'est une question de volonté, de tactivim de la ville de Tel Aviv. Ouais. Top, nounou. Quoi qu'il en soit, les amis, maintenant, nous rentrons dans le texte lui-même.
Le maire de Tel Aviv.
Le maire de Tel Aviv. Tu te présentes?
On a un rabbin qui a.
Je me dis même à la maison, même au Beth Amidrash à Jérusalem, il n'y a pas énormément de...
Quoi, tu parles de Beth Arav Kouk?
Ouais.
Bon, d'accord, il n'y a pas énormément, mais en même temps, l'endroit n'est pas grand non plus, donc on ne peut pas faire un truc énorme, mais ben, y a, voilà, il y a un musée, il y a un Beth Midrash, il y a une synagogue, il y a quelque chose qui tient, quoi.
Je ne sais pas si tu peux rentrer dedans, mais c'est
déconcentré. Non, on peut... Enfin, si tu peux rentrer, mais faire tout un traloïde pour rentrer. Bien. Et puis, il n'y a surtout rien à voir, quoi. Tu rentres et puis... C'est une maison à lambeaux, quoi. C'est dommage. Tov. Donc maintenant, après toutes ces introductions, on peut rentrer dans le texte. Et en fait, on ne va pas rentrer dans le texte, on va rentrer dans l'introduction. Parce que ça répond à la question qui a été posée. D'où il vient le livre? Comment il l'a écrit? Qu'est-ce qui se passe? Le Rav Kouk n'a écrit aucun livre. Enfin, du moins, il a écrit aucun livre en mode « je m'assois et je pense un livre ». Il écrit et il écrit. C'est le problème de tous les génies, c'est qu'il se pose et il écrit. Et ça va être ses élèves qui vont ordonner ses idées en bouquin. En l'occurrence, ça va être soit son fils, pour une partie de ses livres, soit le Rav HaNazir. Par exemple, Orot HaKodesh, c'est le Rav HaNazir qui va le mettre en forme. Orot, c'est le Rav Tzvi Yehuda, son fils. D'accord ? Donc en fait, c'est plein de piscaot que le Rav Tzvi Yehuda va ordonner. Mais... il va lui montrer. C'est-à-dire que, à la fin, il y a le tampon du Rav Kouk, il dit, OK, ça c'est bien. On va avoir plusieurs Mahadurot, plusieurs éditions, de Orot, et deux principales. Une que le Rav Kouk va voir. Et une fois qu'il l'aura vu, il lui dit, à son fils, il dit, rajoute un truc que j'ai pas mis. Donc vas-y, pour la prochaine, tu rajoutes. Et c'est quoi? Rajoute les sources. Et ça, c'est un grand problème qu'on a dans le Rav Kouk, c'est que, il connaît toute la Torah par cœur, donc il n'y a pas de problème, mais il ne nous dit pas d'où il sort tout ce qui sort. Et donc il y a plein de fois où il cite des versets, d'abord il ne sait pas d'où ils viennent, il cite des phrases du Zohar, de trucs, il ne sait pas d'où ça vient. Et donc il a donné comme rôle à son fils de mettre à la fin du bouquin, et donc tu as à la fin du bouquin, le Maré Mekomot de tout. Donc tu prends après Piska, Piska, tu regardes, voilà, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Ça, c'est un truc qu'il lui a demandé de faire à la fin. Et ok, alors je vous propose qu'on rentre dans l'introduction, parce que l'introduction va nous expliquer quel est le but du livre.
C'est lui qui a donné les sources ou son fils s'est retrouvé tout seul?
Ah non, il lui a dit au boulot. Bah, son fils aussi, il connaissait toute la Torah. Donc ça aide. Écoutez, il y a une lettre qui est très, très connue dans ceux qui étudient le Rav Kouk. Une lettre où le Rav, il écrit à son fils. Il lui dit, écoute, bon, je t'aime beaucoup, machin, mais comment? Qu'est-ce que j'apprends? Tu reviens sur ton étude que 30 fois? Mais enfin, tu ne sais pas que ce n'est pas pareil quelqu'un qui étudie 100 fois et quelqu'un qui étudie 101 fois? Non, mais enfin, voilà. Au final, il connaissait tout aussi. Donc c'est piece of cake, comme on dit. Alors allons-y. Le problème du Rav Kouk, c'est que chaque mot a l'air d'être complètement lyrique et complètement d'une envolée d'une autre dimension, mais en fait, non. Chaque mot est réfléchi et pensé. Et pourquoi c'est celui-là et pas une autre, ça a son importance, donc il faut qu'on étudie. D'accord? On y va? Yalla! Alors l'introduction, elle ne vient pas du Rav Kouk, elle vient de son fils, mais elle mérite aussi de s'y arrêter 5 secondes. Bah, Marc Agdama.
On l'a trouvé dans Internet,
pas d'introduction? Top. Alors on y va. Shefa Kodesh à Kodashim, Shel Sefer à Orot Azeh. Voilà, donc tout de suite, on commence avec du lourd, puisque le Rav Kouk nous explique, le Rav Tzvi Yehuda, que le livre de Orot, Zeh Kodesh HaKodashi.
Comme Shir HaShirim.
Alors, comme Shir HaShirim. Mais, attention, vous allez me dire, ouais, mais c'est son fils, il est parti pris. Hein, il a appelé le livre de son père Kodesh HaKodashim. Tov, non. Parce que, par exemple, on a demandé au Rav Tzvi Yehuda, pourquoi est-ce qu'il a appelé le livre Orot, Kodesh à Kodashim. Il a répondu, ben parce que Orot à Kodesh, c'est Kodesh, et Orot, c'est Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire qu'au sein des livres de son père, il sait faire la différence entre ce qui est Kodesh et ce qui est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh Kodashim ? Quand on y regarde de plus près, dans toute la bibliothèque juive, depuis la Mishnah jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que trois livres qui ont été nommés par d'autres rabbins Kodesh à Kodashim. Plein ont été nommés Kodesh ou Akadosh, mais Kodesh à Kodashim, il n'y a que trois, qui sont Shir HaShirim, qui a été appelé par Rabbi Akiva Kodesh à Kodashim, écrit par Shlomo, mais dit par Rabbi Akiva. Le deuxième, Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Alevi, appelé par Ele Gaon de Vilna et Baal Tzot HaChoshen Kodesh à Kodashim, et Orot, appelé par le Rav Tzvi Yehuda Kodesh à Kodashim. Donc c'est suffisamment peu pour que ça mérite de s'y arrêter deux secondes et d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que Kodesh à Kodashim dans le judaïsme ? C'est quoi ce concept ? Le Saint des Saints. Quand on y réfléchit deux secondes, le Kodesh à Kodashim était d'abord un endroit, au Beit HaMikdash. Et d'ailleurs, c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller aujourd'hui. Betouma, donc quand on décide de monter, ceux qui décident de monter sur le mont du Temple, il faut faire attention de ne pas arriver à cet endroit-là. D'ailleurs, pas que le Kodesh à Kodashim. Ah, oui, en fait, on peut aller jusqu'à la Hazara. À partir du moment où on rentre dans la Hazara, il faut faire para Adouma. Il faut être pur de pas seulement du Mikvé, mais de Toumat Met.
Mal barré pour ça.
Ben non, c'est pas tellement mal barré. Il faut attendre 8 mois. Bezrat Hashem. Oui, car tu ne le sais peut-être pas, mais en ce moment même, il y a 5 vaches rousses qui sont en Israël dans un endroit tenu secret et qui sont cachères à 100%, qui sont prêtes à servir de vaches rousses. Il faut attendre qu'elles aient 2 ans. Donc pour l'instant, elles sont tenues au chaud. Et en espérant qu'ils ne vont pas développer un poil blanc ou noir ou autre, elles sont prêtes. Et que tu saches que le Rav Israël Ariel et le Machon Amigdash ont acheté un terrain sur le Mont des Oliviers pour pouvoir participer et faire le tekes de Shrita Vesrefat Para Aduma. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Est-ce que...
Il faut les enfants purs aussi, non?
Et il y a déjà des Kohanim qui sont chouchoutés depuis, mais pas depuis maintenant, depuis avant.
C'est-à-dire ils qu'on balade sur des planches de bois, n'est-ce pas? Ils ne touchent pas le sol.
Ah non, il ne faut pas exagérer non plus.
Mais
non, toucher le sol, ça ne rend pas impur le toucher le sol. C'est-à-dire, mais Bekito, des Kohanim qui sont eux-mêmes théorimes. Donc, c'est pas aussi fou que. Non, c'est pas ils sont tout le temps sur des planchettes roulantes. C'est pas ça. C'est que, en fait, le gros truc, c'est de pas être en contact avec tout Matmet.
Ils n'ont jamais approché. Ouais, ça,
voilà, c'est juste des gens.
On s'arrange pour qu'ils ne nous approchent jamais.
Qui n'ont jamais été en contact avec aucune personne qui a été en contact avec la mort.
Wow. Ah, d'accord.
Ah, bah oui. C'est pas, j'ai pas dit que c'était simple. Mais bon.
Il y a des enfants.
Oui. Ça, le Machon Amigdash, leur boulot, c'est le Beit Amigdash. Donc on verra. Est-ce que ça sera fait ou ça ne sera pas fait? Mais dans tous les cas, même si c'est fait, on ne pourra quand même pas aller à l'endroit du Kodesh à Kodashim. Ça, c'est que le Kohen Gadol. Et même dans le Kodesh, si tu n'as pas ta carte d'identité de Kohen, tu ne peux pas y aller non plus. C'est-à-dire? Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, Kodesh à Kodashim. Tu parles des manifs pour le droit des animaux. Nous. les manifs, cette année, Bezrat Hashem, on va faire le Corban Pessah. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les manifs et tout? Nous. La question, c'est est-ce qu'on pourra faire le Corban Pessah sur un animal qui a été cloné ou un animal qui a été développé en laboratoire? Est-ce que ça, les associations animales nous permettront ou ne permettront pas?
Mais ça, c'est
les questions d'aujourd'hui. C'est les vraies questions. Alors, pour l'instant, les rabbins s'occupent pas trop de ça parce que c'est pas encore vraiment palpable. Mais évidemment que ça va être les questions de demain. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, Kodesh à Kodashim, c'est un endroit. Et dans cet endroit, il y avait quoi? Il y avait quoi dans le Kodesh à Kodashim?
Alors, Arona Kodesh.
Il y avait le Arona Brit. Arona Kodesh, c'est là où on met notre Sefer Torah. Arona Brit, l'Arche d'Alliance, qui d'ailleurs aujourd'hui est dans un entrepôt aux États-Unis, puisqu'il a été retrouvé par Indiana Jones. Quoi? C'est Katouf, mais il me fourrage dans les aventuriers de l'Arche perdue.
Mon cœur a fait comme ça.
Moi aussi, je suis allé.
Mais c'est Katouf.
Après la vache rose, on s'est dit, c'est tout retrouvé la vache rose.
Ah, ni l'homme
de miracle. C'est...
Mais je comprends pas. Homme de peu de foi. Rappelez-vous qu'on a retrouvé à Qumran. Rappelez-vous qu'on a trouvé à Qumran. Donc Qumran, c'est à côté de la Mer Morte. Là qu'on a trouvé les rouleaux de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte. Dans ces manuscrits de la Mer Morte, il y avait, comme vous le savez, quatre sortes de manuscrits. Il y avait les manuscrits du Tanakh, il y avait les manuscrits qui parlaient de la vie de la communauté de Midbar Yehuda, et il y avait aussi un manuscrit, pas sur du parchemin, mais sur une feuille de cuivre. Et lorsqu'on a pu la dérouler et qu'on a pu essayer de la lire, on a vu que, on a tout de suite compris que c'était un truc un petit peu particulier, mais c'était, semble-t-il, une liste de grands trésors. Et pour la majorité des archéologues, il s'agissait d'une liste de choses de valeur de l'époque du Second Temple. Mais il y a un archéologue qui a dit, moi pas du tout, qu'à rapport, c'est the liste de the trésor, c'est the carte au trésor, pour the trésor, à savoir l'Arche d'Alliance. Et si on arrive à dévoiler l'emplacement de la carte, eh bien on y arrive. Et il va fouiller pendant 7 ans. Financé par son université aux États-Unis. Et au bout de 7 ans, eh bien, il va trouver rien. Donc l'université, elle arrête de financer, parce que bon, voilà. Et il va s'auto-financer pendant encore 7 ans. Et finalement, il trouve
rien.
Donc, le pauvre, ruiné un petit peu. Donc, il rentre aux States. Bon, un peu déçu, j'imagine. Le mec a passé une bonne partie de sa vie à chercher, il aurait trouvé, bon. Sauf qu'il se fait approcher par un autre monsieur rentrant aux États-Unis. Il dit, écoutez, je suis votre travail, je suis un grand fan, j'aime beaucoup, et je voudrais vous proposer, pas de fouiller, mais de venir m'aider, parce que j'ai un petit projet, et j'aimerais bien avoir un consultant. Bonjour, je m'appelle Steven Spielberg. Et je travaille sur un projet, machin, avec un archéologue, ça pourrait être sympa. L'archéologue en question, qui a fouillé pendant des années, qui a rien trouvé, s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, ils vont créer le personnage de Indiana Jones. Et le premier film est basé sur les recherches de celui-là, puisque c'est les aventuriers de l'Arche perdue. Bon, dans le film, il la retrouve. Nous, on pense que Aaron Abrit, elle est toujours quelque part dans le Harabait, puisque en l'an -630, le roi de Jérusalem, le roi de Yehuda, Yoshiaou Melech Yehuda, sentant les Babyloniens arriver, a caché le Aaron quelque part dans le Harabait. Et donc, c'est pour ça que le Machon Amigdash, d'ailleurs, n'a pas fait, dans tous les ustensiles qu'ils ont fait, ils ont fait tous les ustensiles du Beth Amigdash, prêts à l'emploi, ils n'ont pas fait le Aaron. Le Rav Ariel, il a dit, parce que le jour où il faudra la retrouver, on la retrouvera. C'est ça ? Tout ça pour dire que dans le Kodesh HaKodashim, il y a Aaron Abrit. Mais c'est-à-dire, il y a quoi dans Aaron Abrit ?
Le
Luchot, les Shivrei Luchot, la Torah, Tzitzen et Aman, le bâton de Aaron. Alors, Tzitzen et Aman et le bâton, est-ce que c'est dedans ou est-ce que c'est à côté ? Om Shanei. Donc, Yesh, Torah. Torah, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. Bon, mais il y a aussi des statues. Des statues, des Krouvim. Statues, Yeled Veyalda, Mechoubakim Be'ahava, c'est des statues. Top, les statues, c'est Kodesh ou c'est Chol? Une statue.
Statue, c'est
Chol. Une statue, c'est Chol. Donc, maintenant, je comprends ce que c'est Kodesh à Kodashim. Dans le judaïsme, Kodesh à Kodashim, c'est là où il y a l'union du Kodesh et du Chol. Là où tu arrives à faire résider ensemble Kodesh et Chol, c'est Kodesh à Kodashim. Donc, Shira Shirim, Mazé, c'est Shira Ava, c'est une chanson d'amour entre un homme et sa femme. Tov, l'amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh ou c'est Chol?
Les deux.
Bah, c'est Kodesh. Oui, mais c'est aussi très très Chol. Ah, donc c'est Kodesh à Kodashim. Sefer HaKuzari raconte comment l'histoire du peuple juif, Chol, histoire, eh bien, en fait, permet de dévoiler la Shekhina, Kodesh. Donc, Zé Kodesh à Kodeshi. Le livre de Horoth s'occupe de dévoiler comment le sionisme laïque, Chol, répond et devient la réponse de la promesse des prophètes Kodesh. Donc, Zé Kodesh à Kodeshi. D'accord ? Donc, c'est de ça qu'on parle dans ce livre-là. Donc, Shefa Kodesh HaKodashim, Shel Sefer HaOrot Azeh. Alors, ici, les différentes parties. Eret Israël, Amilchama, Israël Utriato, Orot Atria. C'est les parties du livre. Après, il y en a d'autres qui ont été rajoutées. Sheofia Mitoch, Pachet Tahoro, Shel HaKohen Agadol, Ahamur, Arav Zatzal, Beshnat Tarpa. Donc, ce livre-là, là, je le sors en 1921. C'est sa deuxième apparition. C'est-à-dire, il est arrivé d'abord. D'abord, le Rav Kook est arrivé en 1904 en Israël. Il part après, en 1913, en Chutz Laaretz pour le congrès international de la Agudat Israël. Il est bloqué en Europe à cause de la Première Guerre mondiale et il ne revient qu'à ce moment-là, en 1921. C'est là qu'il peut sortir véritablement le livre Horoth. Donc il dit, il est sorti en 1921. Imreshit bo bedvar Hashem lechazarat shchinato vekonenut malchuto Yerushalayim. C'est-à-dire, c'est l'année où il a pu revenir sous la dictée de Dieu à Jérusalem. Sur quoi sous la dictée de Dieu? Que Dieu lui a dit, il était prophète? Non. Mais c'est une mitzvah de venir en Israël. C'est juste qu'avant, il ne pouvait pas. Et c'est la condition d'ailleurs qu'il avait donnée à la communauté de Marzikei Hadat de Londres, que dès qu'il peut rentrer en Israël, il rentre. Ok, donc il rentre en 1921.
Oui. Il est sorti en 1921, mais tu m'as dit pourtant qu'il n'a pas écrit le Rav Kook, c'est son fils qui l'a écrit.
Non, c'est-à-dire que le livre est. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est la deuxième fois. C'est-à-dire les écrits, toutes les différentes piscaroles, elles sont déjà écrites. D'accord. Mais c'est en 1921 que, une fois que le Rav Tzvi l'a mis en ordre, quand il revient en Israël, il décide de le sortir. Ok ? Officiel. C'est la première Mahadoura. Il est Choser Umofia. Atta Bishnat Aktoret. Voilà, je le sors une deuxième fois, dans sa deuxième version avec les ajouts, en 1949. Bishnat Aktoret. Donc le Rav Kook est déjà mort à ce moment-là, ce qui meurt en 1935. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Rav Tzvi Yehuda appelle l'année 1949. Non, ça c'est pas étonnant. Ça c'était le style à l'époque de comment est-ce qu'on nomme les années avec leur valeur numérique. On fait des mots. C'est-à-dire, c'est pas que le Rav Kook qui fait ça, c'est tous les rabbins à l'époque qui faisaient ça. Mais il appelle ça, donc Shnat Aktoret, Imreshit Giluya Shel Romemut Yemin Elyon Legeulat Amo Venachalato Veishuat Meshicho. C'est clair, non? Imreshit Giluya, c'est l'année 1949, c'est le début du dévoilement de la grandeur de la droite. Oui, parce qu'il y a une différence entre Yamin et Smol chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la Yamin chez la Kadosh Baruch Hu?
La
rigueur. Afour. Smol, c'est la rigueur. Et Yamin, c'est Chesed. C'est Les Geoulat Amo, Venachalato, Vishwat Meshicho.
En 49, on a vu la rigueur.
C'est quoi la rigueur?
On est à la sortie de la. Enfin, c'est-à-dire.
Ah non, si tu veux parler de la Shoah, il fallait en parler en 45.
Ouais. Ou en 42.
42.
Non, tu me dis à la fin de la Shoah, c'est 49, c'est plus la fin de la Shoah, il s'en est passé d'autres trucs entre temps.
49, c'est la fin de la guerre d'indépendance.
Ouais, c'est la fin de la guerre d'indépendance. Mais si tu veux me parler de l'indépendance de l'État d'Israël, il fallait me dire 48. Qu'est-ce qui se passe en 49 qui devient le dévoilement de Yémin et Lyon pour Géoula Tamo? La Géoula, c'est 48. Mais le dévoilement de Yémin et Lyon, c'est 49. Makara. Eh bien, les amis, en 1949, dans deux semaines, c'est-à-dire à Tou Bishvat, la Knesset, le Parlement, est passé à Jérusalem. Le gouvernement est passé à Jérusalem. Ze Reshit Giluya Shel Romemut Yamin Elyon Legeulat Amo Venachalato Veishuat Meshicho. C'est tout ça que ça veut dire.
Alors, ce petit mot-là.
Hein?
Ces petites phrases, ça veut dire tout ça.
Exactement, c'est tout ça que ça veut dire. Pas chute. Leumat atzorech hamamashi, בהתחדשות הוצאתו של הספר, אחרי אשר זה קמה אזל ורבתה הדרישה להשיגו. הוא היית דיר, יפיד ליבר. Les gens, ils s'arrachent le livre comme des petits pains. Tu parles, ils étaient trois à avoir le livre. Mais bon, donc il te dit, on m'a fait des commandes.
Il y a un contrôle demain, Laurent, il faut répéter par cœur.
Bien sûr. Makbil ou Mechaven ou Achiyuv Ameyuchad Beachzara Beachzara, c'est-à-dire Nehedarazo Atta Alpene Maarechet Eitanim Shel Komemut Yerushalayim Le Memshelet Israël Amishtag Gebet Veola Le Geulato Opedut Nafshen. Geulaten Opedut Nafshen. Je te dis, ben voilà, maintenant qu'on est revenu à Jérusalem, c'est très très important que ce livre puisse être trouvé. Parce que c'est ça qui va mettre de la lumière sur tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, ben, ce livre s'appelle Orot. Que veut dire le mot Orot dans la terminologie du Rav Kook ? Que veut dire le mot Orot ?
Éclairage.
Alors, c'est pas simplement une lumière, mais c'est Tfissa. Une perception, une compréhension. Tu dis des fois, à la lumière de ce témoignage, eh bien, je vois les choses autrement. C'est-à-dire, donc, Or, Zetfissa. Donc ici, quand on va te parler de Orot, c'est une nouvelle perception. Voilà, je vais t'apprendre une nouvelle perception qu'on doit avoir du monde. Par rapport à Eretz Israël, par rapport à la Milchama, par rapport à Triat Elohim, Akol. D'accord ? Orot, Tfissot. Ok ? Kipkudat Baal Orot Zal. Donc c'est mon père qui m'a ordonné ça. Be'acharit shenotav, badakti ve'amadeti al kavan al matkontam et psukei amikraot ve'ma'amarot chazal. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, c'est mon père qui m'a demandé de retrouver les trucs. Asher mikodem be'otzah rishona kefi shetef ha'yetzira mekorit yesh shelo hayu meduyakim be'avayatam bimkomam. Il dit, dans la première édition, mon père il a écrit. Et des fois, il manquait un vav, il manquait un truc. C'était pas exactement comme le verset, il était exactement dans le texte, et puis il disait jamais d'où ça vient. Donc il m'a dit de vérifier ça. Iné, c'est fait. Gam tzirafti besof sefer reshimat mare mekomot shel apsukim ve'amamarim. Rubam lishonotehem kmo shehem vechelek mehem lekivun lekivun einehem ve'amshachem. Top. Bon, jusque là tout va bien. Après il dit que j'ai reçu une ehara lefi ara'ato anechona shel gisi yekiri. הרב רבי אברהם יהושע אוטנר שליטה אשר ידיו רב לו וזכותו בכל מפעל הוצאת כתבי קודשו של האמור הרב זצל oui le rav Avraham Yoshua Outner c'est lui qui va permettre de mettre en place le Mossad Arav Kook qu'on a à Jérusalem à l'entrée de la ville en fait qui va s'occuper de faire sortir tous les enseignements du Rav Kook et les livres du Rav Kook il m'a dit ce serait bien que tu mettes dans le livre aussi les Ma'alach Haideot Beisrael. Donc j'ai mis. Et Malach Haideot Beisrael, c'est un Mahamar qui n'est pas dans le livre, mais qui parle aussi du même sujet. Donc, il m'a dit, ce serait bien que tu le mettes dedans. Shachre Pirsumo Arishon Beshvo Naivri, Alede Arav Meir Barilan, à l'époque où ça a été fait, Nitpas, Be Igrot Reiya, Be Otsa Arishona, et là je l'ai mis ici. Maintenant qu'on a dit tout ça, il nous donne sa phrase de conclusion à son introduction. Et il dit, voilà ce qu'on va faire quand on va étudier ce livre. Mimekor mazrea aor agadol. Donc c'est là, on va parler de l'origine de ce qui va permettre de l'azria, de nous permettre de pousser, de grandir. Leumat itratcho bedvar tsur Israël vegoalo. On est en train de parler du dévoilement de Dieu en tant que tsur Israël vegoalo. Minayin habitu yaze. Tsur Israël vegoalo. D'où ça vient ? Alors, non, parce que dans Migat Hatzmoum, il y a marqué que Tsur Israël. Vegoalo, c'est dans la bracha l'Eshlom Amdina.
Oui. Oui, mais elle existait à l'époque, c'est pas.
Elle a existé, elle a été mise en place justement à ce moment-là par le Rav Yitzhak Herzog.
C'est une expression qui n'existait pas en tant que telle.
C'était dans le Tanakh, ça, non ?
Alors, Tsur Israël, oui.
Tsur Israël, oui.
Vegoalo, ça a été rajouté par le Rav Herzog. Ok ? Maintenant, attendez, de quoi on parle ? Là, on est en train de parler de Shemot, chez la Kadosh Baruch Hu. Alors, évidemment, on est obligé de rentrer un petit peu là-dedans, sinon on ne comprendra rien. Shemot Ha'Elora, les noms divins dans le judaïsme. Mazé.
C'est des trounotes à Kadosh Baruch
Hu. Des trounotes. Voilà. Des ofaot. De voilà. C'est plus que des attributs, c'est les façons dont il a de se dévoiler. D'accord ? Donc, il a plein de noms. Et à chaque fois, c'est un autre dévoilement. Lorsque Dieu se dévoile en tant que créateur du monde naturel, il s'appelle Elohim. Lorsque Dieu veut se dévoiler par l'intermédiaire de la morale, il s'appelle Hashem Elohim. Lorsque Dieu veut montrer qu'il est le patron, il s'appelle Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Lorsqu'il veut montrer qu'il est celui qui fait des promesses, il s'appelle El Shaddai. Lorsqu'il veut montrer qu'il est celui qui réalise des promesses, il s'appelle Yudke Vavke. Lorsqu'il veut montrer qu'il est celui qui se dévoile par l'intermédiaire de la royauté d'Israël, il s'appelle Hashem Tsevaot. Lorsque, par contre, lorsque on part en exil, il s'appelle Hashamayim. Shem Shamayim. Kiddush Shem Shamayim. Le nom du ciel. Ken, ça revient par rapport à ce qui est marqué dans la Torah, que lorsque Yaakov part en exil, Dieu, il l'appelle Elohe Hashamayim. Puisqu'il n'est plus Elohe Haaretz, puisque je pars en exil. Elohe Hashamayim. Et lorsque l'exil devient véritablement trop présent pour nous, on n'arrive même plus à ressentir un dévoilement, mais ce n'est que abstrait, c'est un concept plus qu'un ressenti, alors on lui donne un nom qui est un concept métaphysique, Hakadosh Baruch Hu. Chez Hakadosh ou Gama Baruch, que le transcendant, il est aussi l'émanant. C'est un concept philosophique. D'accord ? Mais lorsque Dieu ressuscite le peuple juif, il s'appelle Tzur Israël. Lorsqu'il réalise l'état d'Israël, il s'appelle Tzur Israël, comme il est marqué dans le livre de Hoshéa, de Yoël. La et donc dans la déclaration d'indépendance, parce qu'il y avait un grand problème. Comme tu te rappelles, dans la déclaration d'indépendance, la dernière machloquette avant de finir le texte, c'était de savoir est-ce qu'on met le nom de Dieu ou pas. Et finalement, sous l'impulsion et du Rav Herzog et du Rav Maimon, qui ont dit à Ben Gurion, mais t'as qu'à mettre un nom que les pas religieux ne connaissent pas. Un nom qui est un peu comme ça, lyrique, littéraire, Tzur Israël, chacun il pourra y voir ce qu'il veut. Et zéro, c'est passé. Et donc tu entends Ben Gurion dire à la fin de la déclaration d'indépendance, mais bitachon, Tzur Israël. Il fait très très bien. Il manque les cheveux.
Alors, Amadkal, il a fait un
Bartora
sur l'île de
Shemot
aujourd'hui.
Eh ben, dans son allocution. Il est, c'est Azman. Donc, il nous dit Léomat itracho bedvar tsur Israël vegoalo melech olamim atzadik bechol adorot al tzion veirushalayim umkorem bemitzvat torato. Mais c'est mitzvat torato. Yesh mitzvah d'habiter en Israël, de reconstruire un pays. Yesh mitzvah. Il y a une mitzvah, d'après le Ramban, pas seulement d'habiter en Israël, mais de construire un pays, un état, d'être souverain. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est ce que veulent faire le mouvement sioniste à l'époque du Rav Kook et les Chalutzim. Donc, yala. Be mitzvah torato, yinnase ve yirae, ve chol tokef nitzcho, ve az tifarto le'eine kol afse aretz tevel ve yoshve va. Le but est d'éclairer le monde entier. Pas seulement les juifs, mais le monde entier. C'est ça la vocation de Medinat Israël. La vocation de l'État d'Israël est d'être véritablement, pas pour une blague, la lumière du monde. C'est-à-dire, rappelons-nous qu'il y a un verset qu'on retrouve sur beaucoup de synagogues, dans beaucoup de Aaron Kodesh comme ça. Kimitzion, etc. Torah, Dvar Hashem, Yerushalayim. Seulement les gens oublient trop souvent d'où ça vient. Alors oui, ça vient d'Ishayahu Hanavi, d'accord, mais qui, dans la bouche de Ishayahu, dit ça? C'est les goyim. Parce que le verset en tout nous dit ואמרו עמים רבים, בואו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. C'est-à-dire les goyim viennent et disent, venons à Jérusalem, parce qu'il faut qu'on apprenne de Yaakov et de ses chemins, parce que c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Donc voilà la vocation du peuple juif, voilà l'idée.
Quand tu parles dehors la goyim, c'est-à-dire donc tu parles que de Torah? C'est-à-dire que je sais pas ce que les goyim peuvent voir dans la Torah, j'arrive pas très bien à comprendre, mais en tous les cas, c'est ça?
Les goyim, ils ont besoin, comme toi et comme moi, de ressentir et de suivre le dévoilement divin. HaKadosh Baruch Hu n'est pas que le dieu des juifs, mais il est le dieu du monde. Et donc il est évident que les goyim ont un énorme problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sentent pas connectés à HaKadosh Baruch Hu. Nous, on se sent connectés. Kol HaKavod, bah, il est temps de le faire partager aux autres. C'est-à-dire, est-ce que la connexion sera la même? Non, parce que chacun il le perçoit avec le prisme qui est le sien. Mais il est évident que le but du peuple juif, donc de l'État d'Israël, c'est venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est ce que Dieu va dire à Abraham pour la première fois. Donc, le rôle du peuple juif, il est là.
Tu peux donner un exemple concret, parce que je n'arrive pas très bien à comprendre. C'est-à-dire quoi c'est...
Oui.
Que les goyim, quoi. C'est-à-dire quoi je ne comprends pas exactement. C'est-à-dire, je vais en France, qu'est-ce que. Je sais pas. Que...
Ah, mais tu vois. La question, elle, à mon avis, l'erreur de la question, elle vient du fait que tu dis, mais attends, moi je suis un goy en France, qu'est-ce que. Truc. C'est pas moi, je suis un goy en France.
Moi, qu'est-ce que j'ai amené à quelqu'un
Ah, c'est justement, c'est pas toi.
D'accord, c'est... super, on continue.
Je t'explique. C'est pas toi. Puisque si c'est toi par rapport à monsieur Bertrand en France, tu me parles de Kdushat Aprat. Kdushat Aprat, tu peux lui apprendre comment être un homme bien et un homme kadosh. Mais il y a d'autres gens qui peuvent le faire. Il y a peut-être des hommes d'église qui sont des gens très bien. Il peut y avoir des hommes de spiritualité qui sont des gens très bien. Donc, le judaïsme n'a pas vocation de t'enseigner et d'enseigner au monde uniquement Kdushat Aprat. Bien sûr qu'il y a aussi la Kdushat Apratit. Mais le rôle du peuple juif, c'est Kdushat Aklal. Comment est-ce que Klal Israël, c'est-à-dire l'entité collective, peut être celle qui dévoile la Kedusha, peut être celle qui dévoile Dieu?
Et comment ça s'exprime dans les faits? C'est-à-dire que Israël, pour répondre à cette attente, alors doit être à sa place, mais
évident.
Quelles sont les implications par rapport aux autres?
Bah par exemple, à l'époque, par exemple à l'époque du roi Salomon, Shlomo HaMelech, du monde entier, on vient pour voir la grandeur de ce peuple et la grandeur de Jérusalem, parce qu'on est happé par la Kedusha qui sort de Jérusalem. C'est ce que la Torah nous demande d'être dans le livre de Devarim de manière très claire. Ou dans le livre de Devarim, on va nous dire au chapitre 3 ou 4, on a le but, que le but du jeu, c'est que les goyim nous voient et disent « Waouh ! Amna gadol vechacham ! Pshiu ! Incroyable !»
J'imagine que ça,
mais il ne s'agit pas de... Non, mais il s'agit pas d'individus.
Nous, on doit être, par exemple, une société...
Voilà, c'est au niveau sociétal, au niveau de l'État. On doit dévoiler la Kedusha en tant que collectivité.
Et en quoi ça va impliquer?
Ah bah parce que les gens ils vont voir les gens vont... la grandeur et ils veulent apprendre, ils veulent devenir pareil.
Ils vont s'aligner quoi sur les règles de morale, sur les règles
pas
de
que,
justice.
De Kedusha également. N'oublie pas une chose, 613 mitzvot ont été donnés au peuple juif pour arriver à quoi? Bah pour arriver à percevoir le dévoilement divin, la Kedusha. On va appeler ça la Kedusha, ce sera plus facile. Mais les goyim ils veulent aussi. Il n'y a pas de raison. Maintenant, ils ne vont pas, les goyim, ils ne sont pas mechouyavim de 613 mitzvot. Ils sont mechouyavim, ils ont l'obligation de faire les 7 mitzvot de Noir. Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Et Sheva mitzvot ben Noir, c'est un point de départ. Si tu n'es pas là, ce n'est pas la peine qu'on discute. Parce que la morale de base que HaKadosh Baruch Hu a demandé à l'humanité, tu ne l'as même pas. Mais une fois que tu l'as, ben Noir, Sherotze, l'ilmot Torah, Velamdim. Alors que Goy chez Shavat, Rayav Mita. Une différence entre Goy et Ben Noir. Celui qui s'est élevé au stade de Ben Noir, celui-là, il peut étudier toute la Torah et il va piocher. Ce qui, lui, en tant que Goy, lui parle, l'élève. Et donc, le Norvégien, il trouvera des choses dans notre Torah qui ne sont pas les mêmes que le Nigérian, il va trouver. C'est normal. parce que c'est pas la même chose. Et donc là, ils vont être touchés plus par ça, comme déjà depuis une trentaine d'années, les Makoya au Japon, petit groupe de quelques millions d'individus, non, j'exagère peut-être, quelques centaines de milliers d'individus, qui sont guidés par deux personnes qui s'appellent Ephraim et Akiva, je crois, et leur nom de famille en japonais, je suis incapable de les prononcer, qui sont Bnei Noar depuis des dizaines d'années et qui organisent des séminaires en Israël chaque année, mais pas pour se convertir, pour apprendre de nous comment devenir de bons japonais. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de Bnei Noar à travers le monde. Goy, c'est l'appellation qu'on donne simplement aux non-juifs. Mais tu peux être un non-juif qui idolâtre. Ok ? Ben Noir, c'est quelqu'un qui est non-juif, mais qui a rejeté l'idolâtrie et qui suit les sept lois de Noir.
C'est un tzaddik,
Goy. C'est un tzaddik, il est en bon chemin pour être un tzaddik.
Il n'y a jamais eu une décision de kivoun négatif ou de kivoun de quelqu'un qui fait mal les choses. On parle de Goy Kadosh.
Non, tu as raison. Le mot Goy en lui-même. Bien sûr, tu as raison. Le mot Goy en lui-même, il n'est pas du tout péjoratif. Goy, ça veut dire entité nationale.
Ouais.
C'est-à-dire, on est des goyim aussi, enfin on est un des goyim, on n'est pas des goyim, on est un goy parmi les différents goy.
Deux choses, dans un de tes cours, tu avais dit que toute personne qui rejette l'idolâtrie
Nikra Yehudi.
Est considérée comme juive.
Ken.
C'était qui?
Non, c'est la Gemara, mais Kol HaKofer Be'Avodah Zara, Nikra Yehudi. Nikra, il n'est pas pour de vrai.
Voilà, mais bon, mais ça donne l'idée.
Mais ça donne l'idée, bien sûr. C'est-à-dire que tu rejettes l'idolâtrie, donc on peut commencer à discuter. Donc, si tu veux, le terme de goy, tu as raison, à la base, c'est une identité, ça veut dire souveraineté. Ok, à la différence de Am, qui est gros groupement de personnes. Am, ça vient du mot Im. Im avec. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont ensemble. C'est Am. C'est un peuple. Mais une nation, c'est Goy. Donc, c'est pas du tout péjoratif. Maintenant, dans le sens individuel, quand on parle de Monsieur Goy, c'est par opposition au fait qu'il n'est pas du Am Israël. C'est tout. Maintenant, la Gemara, quand elle veut faire parmi les goyim une distinction, elle dit il y a ceux qui sont stam goyim, et donc ils peuvent être de plein de religions différentes, et puis il y a celui qui a accepté les sept lois de Noir. Okay. Et lui, on l'appelle Ben Noir. Il est goy, on l'appelle Ben Noir.
Et donc lui, s'il est chômeur Shabbat, par contre, ça passe.
Et lui, il peut décider de faire Shabbat. Bien sûr. Bien sûr. Et il peut décider de prendre plein de choses de la Torah.
Parce qu'on dit souvent, si elle ne dit jamais un goy de faire Shabbat, etc.
Un goy, mais pas un Ben Noir. C'est toute la différence. C'est-à-dire, que tu saches que, en l'occurrence, le Rav Rujerki, qui est mon Rav, mais qui est aussi, c'est son cheval de bataille. Il a créé l'organisation qui s'appelle Brit Olam, qui réunit les Bnei Noirs dans le monde. Et il a sorti un Sidour pour les Bnei Noirs, un Shulchan Aruch pour les Bnei Noirs. Ben oui, parce que si tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, hein?
Oui,
bien sûr.
Il n'est pas sur la pratique du judaïsme comme nous on pratique.
Ah, c'est pas du tout le judaïsme.
Ouais,
c'est bien noir.
Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils ne leur demandent pas de faire Shabbat, par exemple.
Non.
Ouais.
Si par contre il y a quelqu'un qui veut faire Shabbat,
ouais.
C'est que Marot Mefourachot, tu sais, quelqu'un qui. Ben Noir, chez Rotsé, la Kriv Korban. La HM.
Il a le droit.
Il a le droit ou il n'a pas le droit?
Il a le droit.
Mais à Sukkot, c'est même une obligation. Non,
non, là, c'est nous. Ça, c'est nous.
C'est
nous qui faisons pour eux. Mais là, je te parle, Stam, monsieur Durand. Il a envie de faire un corban de la HM.
On dit pas qu'à Sukkot, il y a tous les représentants de
la Khan, c'est le but. Mais c'est, n'empêche que c'est nous qui le faisons, les corbanotes. Les corbanotes, ils viennent de chez nous. Okay. Mais l'idée, c'est que oui, pourquoi pas. C'est veillé à cela.
C'est étonnant parce qu'on dit que le Targum HaShivim, quand il y a le Targum HaShivim, donc on a traduit la Torah en
grec.
En grec, ouais. Que le monde, c'est un truc, ça a été un. Voilà, il y a eu Assyrie Bétévet, c'est aussi ça. Et là, maintenant, tu me dis, non, il faut qu'on enseigne aussi la Torah aux Bnei Noir, etc.
Il faut pas la traduire en grec.
Bah, si tu veux qu'ils faut bien qu'ils.
Mais mon ami, la traduction de la Torah en grec.
On a chopé le cheval aussi,
mais on a belle épreuve.
Bah oui.
Alors sache que ça va être enregistré pour l'éternité, que tu as comparé la traduction de la Torah en grec à Schottenstein.
Bah, Schottenstein, c'est, pour moi, c'est. Wow,
c'est la traduction.
Hein, moi, là, c'est pour
la soupe. Petite pause soupe.
Ah, c'est magnifique, attends.
Oui, bien sûr que c'est magnifique, mais ça n'a rien à voir avec la traduction de la Torah en grec.
Pour moi, c'est. Je vois.
Et même Schottenstein en grec, c'est pas la traduction de la Torah en grec, je sais pas si ça existe. Mais la traduction de la Torah en grec, pourquoi est-ce qu'on est complètement contre? Parce que ça a été demandé par les Grecs. Pourquoi? Pour que la Torah devienne une sagesse grecque comme toutes les autres.
C'était pour s'accaparer la Torah.
C'était pour en faire une sagesse grecque comme toutes les autres. Bah non.
Super, parce que. Prenez,
mais oui, mais
c'est
moi,
l'idée de ce que tu as dit.
Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils ne demandent pas au peuple juif de leur enseigner comment s'attacher à Dieu. Ils veulent que la Torah devienne une sagesse grecque comme les mathématiques.
Ils vont la réinterpréter à leur sauce.
C'est une sagesse divine. Seulement, on oubliera que la Torah, c'est Dvar Hashem. Et donc, si c'est Dvar Hashem, c'est important de savoir à qui Dieu parle. Donc, tu ne peux pas enlever Am Israël de l'histoire. Alors que dans la traduction de la Torah en grec, le but, c'est d'enlever Am Israël. Or là, Ishaïa, il te dit, les goyim, ils disent non, bon allez à la Hashem, elle beit Elohim Yaakov. Veyorenu, qui Yaakov. Et donc, les Bnei Noir, ils viennent apprendre de Am Israël. Pas à devenir juif, mais à devenir de bons goyim, des goyim kdoshim.
D'ailleurs, c'était fou parce qu'en plein Covid, quand Laurent Lévy a fait venir 2500 goyim de tous ses magasins, et qu'il les a réunis à Binyan HaOuma, et qu'il leur a dit, bon, on va tous aller prier dans la montagne d'Hachem, dans le temple, le même Dieu. Et c'est passé comme une lettre à la poste.
Ben oui, bon, attends, c'était ses employés.
Non,
alors,
c'est
ses employés, certes, mais pour avoir, moi, personnellement, fait partie...
Pour tenir un discours comme ça...
Non, moi, je bon, d'accord, mais ça, on sait que... Moi, on sait que Laurent, il a pas de filtre à ce niveau-là, et c'est très bien.
Mais
j'avoue que moi, en tant que l'un des guides qui a guidé un des bus... C'est vrai que, bon, lui, tu dis, forcément, personne ne va rien dire au patron. Mais moi, j'ai demandé après, dans le bus, machin, en un contre un, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez avec ça? Il dit, non, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais pourquoi pas, en fait? Si on pouvait avoir une maison de prière pour le monde entier, ce serait fantastique, machin. Donc, si tu veux, je ne sais pas si tous ses employés pensent comme ça, mais disons que c'est quelque chose qu'il faut éveiller dans les consciences. C'est évident. Le but du peuple juif, et devenir ce symbole-là pour l'humanité. Ça a été, dans certains moments de l'histoire, je te parlais de Shlomo HaMelech, mais il y a eu d'autres moments d'histoire, peu, parce qu'il y a eu très peu de moments où on était souverain et on a pu devenir une lumière pour l'humanité. Mais c'est le rôle du peuple juif. C'est vraiment le rôle du peuple juif.
Puisqu'on parle des noms, je peux te demander pourquoi c'est finalement Kol Afsé Aretz. C'est quoi,
Afsé Aretz? Ça, c'est l'un des exemples, c'est une citation. On va trouver ça dans l'Enun Shabéar. C'est une citation. Kol Afsé Aretz, c'est pour parler du monde entier. Qu'il n'y a aucun membre du monde qui est oublié. Okay, donc c'est pour tout le monde. Le dévoilement divin, il est pour tout le monde.
On écoutait un. Excuse-moi, je vais peut-être un petit peu polémique là. Parce que tu n'es pas encore assez polémique, mais juste.
L'athlète, c'est le premier cours.
On a un cours de. Ici à Givachouel. Ouais.
Bon,
j'ai pas dit non, donc ne dis pas non. Et on parlait justement, et on étudie un petit peu justement sur Shlomo qui s'est marié avec 1000 femmes, etc., la vie de mes parents et compagnie, qui ont finalement. Et donc il nous disait justement, voilà, qu'il voulait justement être hors la goïm, etc., et diffuser la Torah. Et donc finalement, enfin, il n'avait pas réussi parce qu'elles lui ont tourné la tête à la fin. Et donc le Rav qui était là-bas, et qui parlait de la grandeur du Rav Cherki, bien évidemment, il se posait la question, enfin, il nous posait la question, est-ce que vraiment est venu le temps? Pour si même Shlomo HaMelech, avec toute sa grandeur, avec toute sa splendeur, avec tout son rayonnement, il n'avait pas réussi, est-ce qu'aujourd'hui, juste.
Bon, mais il n'a pas répondu à la question.
Non, il a posé la question, il a dit voilà, il dit que.
C'est Shimon.
Ouais.
Qu'est-ce que le Rav Cherki, et pas que, hein, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui que Shlomo HaMelech n'avait pas? À aucun moment, je vais te dire qu'on est plus grand que Shlomo HaMelech, bien sûr que non. Mais. D'abord, il y a une chose que Shlomo a fait que nous, on n'est pas d'accord, parce que Nifsak la halakha acheret, c'est est-ce qu'on a le droit de l'hidrosh ta'ama d'ikra? Est-ce qu'on a le droit de faire des drachot sur les ta'amim, les raisons des psukim? Shlomo, il dit oui. Il dit lo yarbelo nashim velo yato et levaro. Donc, il dit. Pourquoi est-ce que la Torah nous a demandé de ne pas l'arbot Nashim? Parce que ça va le faire tourner le cœur. Avalani, Chacham Ba'adam, j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça ne va pas me faire tourner le cœur. Donc si ça ne me fait pas tourner le cœur, Moutar l'arbot Nashim. Amar Rabbi Yossi, Lo Dorshim Ta'ama Dikra. Donc Nifsak la halakha après Shlomo, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est Aleph. Bet, et c'est pas ça, enfin ça c'est entre parenthèses. Bet, on a un truc que lui n'avait pas. Et ça, c'est justement ce qu'on dit dans les Maalach Haïdeot Beisrael, donc dans quelques cours. Dans ma communauté, l'un des premiers trucs que j'ai mis en place quand je suis devenu le rabbin de la communauté, ça fait 5 ans, c'est qu'on commence à étudier entre Mincha et Ervit Shabbat, Oroth. Alors, Eli, il est venu à un moment donné.
Pour en témoigner.
Voilà. Et ça fait 5 ans. Alors, des fois, on est 20, des fois, on est 15, des fois, on est 2. Ça dépend de ce que le mec qui amène à manger, il amène à manger ou pas. Et ça fait 5 ans qu'on étudie, donc, une fois par semaine, Oroth. Et on est arrivé seulement, là, il y a 2 semaines, à les Mahalach Haïdéot Beisraël. 3 semaines. Mais qui tourne, donc, dans les Mahalach Haïdéot Beisraël, le Rav Kook va enseigner que Beit Rishon, c'était Kdushat HaKlal. Mais uniquement Kdushat HaKlal. Que Beit Sheni, c'était Kdushat HaPrat. Mais uniquement Kdushat HaPrat. Et que ce qu'on est en train de construire dans l'avènement de Beit Shlishi, c'est la synthèse des deux. Quand il n'y a que Kdushat HaKlal, Shlomo, il veut réunir le monde entier dans sa chambre. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Toutes ces femmes, ce sont des princesses. C'est des alliances politiques. Oui. Donc il veut réunir le monde entier, Tachat à Malchut. C'est Gadol. Ken, qu'est-ce qui ne va pas chez Shlomo? C'est que le peuple, il n'y est pas du tout. Yesh Kdushat HaKlal, mais Am Israël, il n'y est pas. Yesh tellement Kdushat HaKlal que lorsqu'on fait l'inauguration du Beit HaMikdash, on ne va pas jeûner à Kippour. Parce qu'on est tellement pris dans le klal. C'est ce même klal qui va, juste après, faire Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilui Aryot. On n'y est pas. Donc ça tombe. Shlomo, ça ne peut pas marcher. Après, on développe Kdushat HaPrat. Beit Sheni, on est tous des dosim. Mais il n'y a pas de dimension nationale, il n'y a pas de cohésion. Donc on va pouvoir avoir l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, deux dosim. Mais on n'est pas ensemble. Ça ne peut pas marcher non plus.
Et aujourd'hui, on a quoi?
Et aujourd'hui, on est en train de...
mais aujourd'hui... Là, on a l'autre, on a l'autre.
On a ce qu'on, l'exil nous a donné.
Et pendant l'exil, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé d'un côté la Kedusha, des mitzvot et de moi.
On a réussi à faire en 50 ans, ça prouve.
Exactement. C'est-à-dire que pendant l'exil, on a développé deux choses. On a développé d'un côté la Kedusha pratique de Kol Echad Ve'Echad par l'étude et les mitzvot. Mais pendant 2000 ans, on a développé un truc qui s'appelle le sentiment de Gaagouim, de l'engouement, à un truc qui s'appelle Jérusalem, Israël. Et on a réussi concrètement à recréer une dimension de cohésion nationale. C'est-à-dire qu'on a un État souverain extraordinaire. Une dimension nationale beaucoup plus exacerbée qu'elle ne l'était à l'époque.
Alors que le point de départ était...
Alors que bah, t'étais dans les chaussettes. Donc ça veut dire quoi?
Mais il dit pas une cohésion. Il dit c'est pas une cohésion.
Mais bien sûr c'est une cohésion. Les problèmes qu'on a vite fait dans le Kikar à Tel Aviv, c'est une plaisanterie. Baruch, c'est une plaisanterie. Dans la rue, bien sûr qu'il y a une cohésion nationale. Énorme. C'est quoi 80 000 personnes? Mais quelle dissension! C'est une dissension quoi? La machine à café? Nachon, je te parle pas des politiciens. Bah, ou que les politiciens, ils ont besoin d'avoir leur fonds de commerce.
Les entreprises,
c'est quand même 80 000.
Mais évidemment, excuse-moi, les 80 000 personnes, je sais pas si c'était 80 000, mais les 80 000 personnes qui étaient au Kikar Abima, c'est des activistes politiques. C'est des gamours. Pareil, quand il y a une manifestation de la droite, c'est aussi des activistes politiques. C'est pas la population.
Mais le fait même que ça se dispute, c'est aussi une...
Qu'on se dispute pour le même rêve, machin. Mais Michlal, je veux dire... Non, mais au travail, ça se passe, je veux dire, les gens ils travaillent ensemble, dans la rue ça se passe très bien.
C'est la figure du Prat au niveau du clan, c'est-à-dire parce qu'on a des politiques qui représentent les valeurs de la Torah et qui donnent l'envie de l'envie.
C'est pas ça qu'on parle.
Ouais, mais aussi. Non, mais le politique, c'est lui qui va former le Shlomo entre parenthèses.
Alors, ben ça, ça serait bien que l'État d'Israël soit un peu plus Torani, soit un peu plus tourné vers Akadosh Baruch Hu officiellement. Parce qu'officiellement, il l'est, mais il le sait pas. Maintenant, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de députés avec une kippa qu'il n'y en a jamais eu, est-ce que c'est une direction vers quelque chose de mieux? On verra, c'est trop tôt pour le dire. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est évident que la dimension nationale... Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'on n'a jamais eu de gens qui avaient une kippa sur la tête. Je dis qu'il n'y en a jamais eu autant.
C'est ce que j'allais dire. Il y a un premier ministre avec une kippa sur la tête. Maintenant, on a un Ramatkal.
Non, je dis simplement que on verra si ça va amener à quelque chose de positif ou pas. Je pense que oui. De toute façon, les choses avancent de manière positive. Le fait est que quoi qu'il arrive, on peut débattre autant qu'on veut, mais Am Israël, il a recréé une souveraineté nationale forte. C'est tout, c'est une réalité. C'est pas la peine de débattre d'une réalité du terrain. Et à côté, on a aussi développé pendant 2000 ans la Kedusha du Prat. Donc, est-ce que on a quelque chose qui pourra nous permettre, et je dis pas demain, mais après-demain, d'arriver à quelque chose qui est plus stable et plus solide qu'à l'époque de Shlomo? Bien sûr. Est-ce que c'est le moment de parler au Goïm? Vadaï. Tu sais pourquoi? Parce que c'est eux qui demandent.
Même Dieu donné, il a fait du mal.
Ouais, alors...
on va clore ce sujet. Non, on s'en va chier.
Est-ce qu'il a fait des chouva?
Officieusement, on va dire.
Il y a un cours du...
Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Non, non. Moi, j'ai expliqué dans ma communauté que, d'abord, une chose très, très importante, c'est que à Tshuva, l'homorida est à Onesh. C'est pas parce que quelqu'un fait Tshuva qu'il ne doit pas payer sa punition. Donc, c'est pas parce que tu as fait Tshuva et que tu demandes pardon que tout d'un coup tu dois être réinvité sur tous les plateaux télé et recommencer ta carrière comme si de rien n'était. Ça n'a rien à voir. Il faut réparer. Demander pardon dans une lettre comme ça, ça ne s'appelle pas encore réparer. C'est-à-dire.
Dont on ne sait pas très bien quelles sont les motivations.
Dont on sait plus ou moins très bien justement quelles sont les motivations et elles ne sont pas forcément. Mais il peut décider, je ne suis pas. Je sonde pas les cœurs. Il peut décider, Béhémet, de faire tchouva et de réparer. Ça peut se passer par quoi réparer? Nous explique Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona ne connaissait pas Dieu donné, mais Rabbeinu Yona avait un problème personnel avec un autre monsieur qui s'appelait Rabbeinu Moshe Ben Maimon, Rambam. Rabbeinu Yona, il est passé dans toutes les communautés où vous pouvez passer et il a détruit le Rambam. Il a dit qu'il fallait brûler ses livres. Il a dit que. Il faisait partie des plus grands combattants contre le Rambam. Et le Rambam a écrit dans l'Ichot Teshuva que Al Chilul Hashem Yefchar Lazor Bitshuva. Chilul Hashem, c'est mort. Et il a mal vécu, Rabbeinu Yona. Si bien qu'il a écrit un livre qui s'appelle Igeret HaTeshuva, dans lequel il dit Omnam Rambam. Il a dit que. Mais moi, je dis qu'on peut faire Teshuva sur Chilul Hashem. Comment? Eh bien, en allant dans tous les endroits où on a fait du Chilul Hashem et en étant marbim bekidush Hashem dafka bamakom azé. Et donc, il est retourné dans toutes les communautés où il avait parlé contre le Rambam pour parler en faveur du Rambam. C'est-à-dire, donc si maintenant Dieudonné décide de partir dans tous les endroits où il a dit du mal du peuple juif, de l'État d'Israël, sur la Shoah, machin, et que il se confond en excuses, mais au contraire, il dit, ben voilà, j'ai étudié le sujet. Et j'avais dit des bêtises, et voilà, en fait, c'est ça, ça, ça et ça, et voilà, on discutera, mais je pense...
Il y a un autre chanteur israélien, sans vouloir truc, mais qui...
Sans vouloir entrer dans une deuxième polémique.
Non, c'est concrètement, c'est plus ou moins ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait. Un chanteur israélien qui avait dit énormément de...
Ah, tu parles de Aviv Geffen.
Ouais, par exemple.
Par exemple. Oui, oui. Nahon, bah lui c'est déjà plus dans l'action.
Ouais.
Mais lui, il est allé sur les plateaux de télé, il a publiquement dit des choses.
C'est plus dans l'action.
Il est allé vraiment s'exposer. Lui il a vraiment fait un boulot.
Donc on en reparle quand il commencera à agir pour corriger ses actions. Ça y est. Tov, donc voilà pour ce qui était de l'introduction, les amis. On rentrera, Bezrat Hashem, la prochaine fois dans le premier chapitre. Oui.
Ah, donc être hors la goyim, donc enfin quand la Torah nous demande d'être hors la goyim. Donc, c'est que dans les valeurs de la Torah, parce que si en mathématiques, si on a un prix Nobel en truc,
il y a fait. Quand Einstein il reçoit le prix Nobel de mathématiques, de physique, c'est les États-Unis qui reçoivent le prix Nobel de physique. Il se trouve que Einstein il est juif, mais la grandeur et à laquelle on a envie de s'attacher, c'est aux États-Unis. C'est pas pareil quand tu as un juif qui n'est qu'un individu. Et son identité collective, c'est pas la sienne. C'est pas la même chose que quand c'est Am Israël, par son représentant individuel, qui est mis à l'honneur.
Oui, mais là, tu attires.
Donc, c'est pas que la Torah.
Si, c'est-à-dire que. Non. Si, parce que.
Quand t'as le.
La prière n'est pas par la Torah. La prière est bon.
L'homme est chané.
Les mecs, ils ont bien géré le Covid.
L'homme est chané. Am Israël, il a bien géré le Covid. Ouais. Zé Torah. Torah, ce n'est pas que Ilchot Schnitzel.
tu dis que c'est la Torah, tu es ami Kimit Sion,
mais Torah, c'est l'orat. Torah, c'est l'orat.
Il reprend en collectivité ce qu'il a fait.
Donc la condition, c'est que ça passe par le peuple.
Oui, bien sûr. Bien sûr. La Kdusha Pratit, on n'a pas besoin de recréer l'État d'Israël pour être kadosh au niveau personnel. Il y a eu plein de anachim énormes dans notre peuple pendant toute la période de l'exil. Et ils avaient une influence sur les gens qui étaient autour d'eux, évidemment. Et même chez les goyim. Le Rambam, il avait une influence sur Salah Adin. Pourquoi pas? Mais c'est pas Am Israël. C'est Machou Acher. Donc lorsque Am Israël retrouve son influence collective, alors c'est justement dans tous les domaines de la vie. Parce que Am Israël, il n'est pas tous rabbins.
Comme par exemple Waze.
Mais bien sûr que Waze, ça fait partie de ça. Waze, le goutte à goutte, machin. Mais bien sûr.
C'est Torah, le Daï. Ça veut dire, si tu dis, voilà, l'Am Israël, il a bien géré la Torah parce qu'au niveau, parce qu'on a fait attention aux gens âgés, parce que. Etc. Ça, c'est des choses où tu peux dire, il y a des valeurs de Torah qui sont dans cette gestion et donc qui sont hors la goïm, oui. La Torah. Mais si c'est des choses. Tu vois, qui sont. Voilà, il y a.
Ils sont quoi?
L'équipe de foot. Alors,
là, ouais, l'équipe de foot. Ouais.
Là, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Non, on a le temps.
Elle a gagné les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est de la Torah? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est.
Il faut vraiment que je te cite maintenant ce qui a marqué dans Rotatria.
Mais je pense que moi, maintenant.
Que lorsque le Rav Kook va nous aider. C'est ce qu'on avait dit d'après dans le cours qu'on avait fait en juillet pour la promo de ce cours-là, qu'on ne savait pas que c'était la promo. On a parlé de la force du sport.
Il fallait avoir de. Il faut que Am Israël retrouve sa force physique, ouais. Parce que ça fait partie du...
Ah bah tiens, mais d'un coup j'ai des champions.
Est-ce que c'est hors la gauche?
Ah, Am Israël, ils sont plus miskenim. Ah, le juif, il est plus...
Pas que.
Non mais là,
nous attend pas nous sur la... Même la
ETF, si, on nous attend
partout.
Même
Waze, on nous attend pas là-dessus.
On nous attend partout, c'est ça qui
est pour moi. C'est pas le rôle
que... Mais Vadaï que si.
On doit donner l'exemple.
Si.
Mais c'est pas une valeur d'être enfant en ETF.
C'est pas une valeur juive.
Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est-à-dire, être fort en high-tech, c'est une chose.
C'est quoi le point avec...
Ah, mais je sais pas, moi, j'ai entendu dire que Dieu, il avait créé le monde, et qu'il nous avait, nous, êtres humains, préposés, c'est notre rôle d'être humain, de parfaire la création du monde. Je sais pas, moi, j'ai lu dans la Torah qu'il y avait marqué, par exemple, « Sheshet Yamim, Ta'aseh Melacha », construis le monde. Ah quoi, j'ai pas compris. La high-tech n'est pas là pour nous aider à construire le monde.
Mais c'est pas un tafkid spécialement juif. Un tafkid que tu donnes à tout humain.
Il y a fait. Donc le peuple juif, son rôle, c'est de montrer comment est-ce que là-dedans, on dévoile à Kadosh Baruch Hu.
Mais ce qui nous rend meilleurs partout,
c'est ça, donc c'est les valeurs de la Torah.
C'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans ces choses-là.
On n'est pas minimum dans ce rôle.
Mais personne t'a demandé d'être le plus fort. Mais personne t'a demandé d'être unique.
Sur Torah et Mitzvot, on est unique. Sur les valeurs de la Torah et sur, de la vie juive, on est unique.
Sur la, non, sur la façon dont toi, tu dois faire les Mitzvot, Nahon, c'est pour toi.
Non.
Et Dieu, il en a donné aussi des Mitzvot au Goïm.
Non, mais ce que nous, on explique de ce qu'on a reçu de la Torah et l'idéologie qu'on a, c'est unique et personne d'autre peut le faire. La technologie.
Mais c'est sur ce que je suis en train d'expliquer. La Torah ne se limite pas. Je comprends pas.
En quoi dans Ouest,
la lumière. Attends, Vous avez déjà. Non, mais je pense que le bug, il est dans le fait que vous vouliez réunir deux choses que le judaïsme n'a jamais réunies. Je pense que vous avez déjà vu une tfila d'Arvit, la tfila du soir. Là-bas, on nous dit très clairement qu'il y a deux choses distinctes. Torah ou mitzvot. Chukim u'mishpatim otanu limadeta. Yesh Torah et yesh mitzvot. Mitzvot, tariag zeshelan. Vemet zeshelan. Tu veux piocher, tu veux pas piocher, goy sheshavatra yavmita ben noach, zeshelan. Torah, c'est ma chose. Torah, c'est comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Tu comprendras que dans mes mots, tu entends la différence entre Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, c'est les mitzvot. Torah chez Birtav, c'est la Tanakh. Rappelle-moi pour qui le Tanakh a été écrit. Tel que Rashi nous l'enseigne dans le premier Rashi de la Torah. Pour les goyim.
Non, pour parler, pas pour, le
pour les goyim.
Inclus juif.
Pas tellement. C'est-à-dire, il est pour nous, pour qu'on sache quoi leur dire à eux. Premier rachid de la Torah. Lo hayta tzricha haTorah la'atchil mi-Bereshit ela me'achodesh hazeh lachem rosh chodeshim ki ha-mitzvah rishona. Ron dit Rashi, ça aurait pas dû commencer par Bereshit, mais par Rosh Chodesh, c'est la première mitzvah. Lama patar be-Bereshit? כי אם יאמרו אומות העולם ויגידו ליסטים אתם שכיבשתם ארצות צבא עמים, סי לגויים אשור יביאן ידיף זה יפקיל אתר דפלסטיניה, הם, לשוויף, אומרים להם, או גויים, תות לאתר הפרטן הקדוש ברוך הוא, איל לא רדוני, מאפחי לא רפחי, אפחי נולד עוני אנו. En d'autres termes, toute la Torah écrite, son rôle, c'est que nous, on sache quoi répondre au monde sur comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Et Dieu se dévoile dans l'histoire par, évidemment, par le Shabbat, par la Kashrout, par les fêtes, bien sûr, mais il se dévoile aussi par le high-tech, et il se dévoile aussi par la littérature, et il se dévoile aussi par tous les domaines de la vie. Dieu n'est...
Hein?
Donc notre rôle... Notre rôle est d'apprendre à le dévoiler dans ces domaines-là. Ça, c'est quelque chose de très très juif, et c'est ça qu'on doit apprendre aux nations. On ne doit pas leur apprendre comment on fait la shrita. Mais on doit leur apprendre comment est-ce que dans tous les domaines de la vie qui a priori ne sont pas des domaines du sacré, mais qui le sont quand même pour de vrai. C'est ça le but.
D'influencer la perspective du monde.
En quoi ? Qu'on peut dévoiler Dieu partout. C'est ça le but. Et pour ça, il faut être présent partout. Tant que le peuple juif, il n'est que dans le Beit HaMidrash et il s'occupe peu que de Hilchot Shnitzel, ou alors Hilchot Nida, ou alors Hilchot Shabbat, il ne peut pas avoir une influence sur le monde.
Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui s'appelle Le sens de la vie, qui est extraordinaire, qui explique exactement ça.
C'est très important maintenant. Et tu me demandes, est-ce que c'est le moment ? L'égoïme, il demande. Je pense que c'est ça qui montre que c'est le moment.
Quand le Rav Cherki a créé son Irgun suite à la demande...
D'abord, il y a des bénis noirs, ils n'ont pas attendu le Rav Cherki. Mais tu vois qu'il y a une soif du monde entier de... Allô, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Vous avez chamboulé le monde.
Qui m'appelle, alors je suis
mais c'est pas toi qu'ils appellent. C'est pas toi qu'ils appellent. Quand tu deviendras le grand rabbin d'Israël, ils t'appelleront certainement.
Ils regardent ce qui se passe.
Le rabbi, c'est son cheval de bataille.
Le rabbi,
bien sûr.
Un de ses combats, c'était les Bnei Noir.
C'est vraiment un de ses grands combats, c'était les Bnei Noir. C'était un des seuls qui parlait de ça.
Maintenant, la différence, par exemple, avec ce que le Rav Cherki voulait faire, le rabbi, on le connaissait, il balançait des tracts, ses Bnei Noir en arabe, au-dessus de Shrem et tout, machin. Maintenant, c'est bien quand t'es un chaliar chabad de vouloir parler au goyim des chevalets de Bnei Noir. Mais qui m'exillonne, c'est cette Torah au Dvar Hashem Yerushalayim. La différence, c'est que le Rav Cherki aujourd'hui te dit, ça ne peut être audible que parce qu'on a retrouvé notre dimension nationale.
Alors qu'est-ce qu'il leur dit ? C'est comment un cours, alors, par exemple ? C'est quoi ? C'est comment...
Ah bah, je t'invite à aller participer aux conférences Zoom. C'est
bon, c'est
pas leur dire. Si tu vas sur le site de Britola, tu verras des vidéos.
Agave, entre parenthèses. Je te rappelle qu'à Paris, il y a eu une rencontre il y a quelques années, quelques bonnes années, une rencontre improbable entre le Dalai Lama et Manitou. Et il a demandé à rencontrer Manitou. Et il lui a demandé, ok, ils ont discuté un peu, il a dit, mais pourquoi vous voulez... Il a dit, voilà, vous, les enfants d'Israël, vous sortez de votre exil, nous, les Tibétains, nous rentrons dans notre exil. Je voulais que vous nous appreniez comment on fait pour survivre à l'exil. C'est hors la goyim. Par exemple. C'est ça ? Après, est-ce que on est mari metakfafa, comme on dit ? Est-ce qu'on réalise notre rôle et on le fait ? Il y a encore beaucoup à faire.
On est dans le chemin.
Chazak Baruch.